Laurent Géronimi, bonjour.
Bonjour Didier.
Vous êtes directeur de la gestion taux chez Swiss Life Banque Privée. On va parler avec vous de ces marchés et puis des perspectives. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de volatilité sur les marchés actions, en tout cas au mois de janvier. Qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés de taux puisqu'on avait bien eu enfin cette hausse des taux aux États-Unis, concrètement, si on regarde les dernières semaines?
Alors, depuis le mois de décembre, finalement, on a eu la manifestation de la divergence entre la politique monétaire de la Fed, qui a effectivement commencé à remonter ses taux, et c'est un fait majeur depuis 2006. Bon, même si la remontée des taux directeurs est symbolique, 25 points de base, et puis la Banque centrale européenne, qui au mois de novembre avait un discours très volontariste sur le soutien que la BCE apporterait à l'économie européenne. Mais finalement, les mesures annoncées au mois de décembre ont été décevantes. Donc ça déjà, les marchés ont été secoués par cet aspect des choses. Et dès le 4 janvier, la Chine a encore surpris en termes de communication sur son taux de change, puisqu'il y a eu une dévaluation. En même temps, la publication d'indicateurs macroéconomiques sur les indicateurs avancés des directeurs d'achat. Et donc ça a fait paniquer le marché. Donc on s'est dit, les banquiers centraux ne sont plus en mesure d'absorber la volatilité, on ne comprend plus ce qui se passe et où va la Chine en plus.
Alors justement, on a pu voir aussi sur d'autres marchés les matières premières comme le pétrole, effectivement, une espèce de krach, sans dire son nom, mais vu la baisse, on peut parler d'un krach. Ça a eu de l'effet sur un certain nombre de marchés de crédit?
Oui. Absolument. Donc sur les actions, c'était spectaculaire, parce qu'on peut parler d'un krach, puisqu'on a eu 80% de baisse sur beaucoup de titres liés aux valeurs pétrolières, hein, je parle des CGG Veritas, de Vallourec. Mais d'un autre côté, quand on regardait l'aspect obligataire, nous avions des obligations qui valaient 50% de leur valeur nominale, voire en dessous. Donc oui, et puis, ça s'est transmis, c'est venu du high yield américain sur le high yield européen, mais également, surtout ce qui est notation investment grade. Et donc, ça a commencé à toucher Total, mais tout le secteur d'énergie était impacté avec Areva et EDF. Donc, vous aviez aujourd'hui des obligations subordonnées. Vous savez, il y a différents niveaux de risque pour un porteur d'obligations, des subordonnées, des quasi-fonds propres sur Total, EDF, qui avaient des rendements au-delà de 5%, voire au-delà de 6%, avec l'impact Areva sur EDF.
Alors, si on revient aux États-Unis, du coup, il y a quelques semaines, on était sur ce début de hausse de taux, et puis les investisseurs envisageaient tranquillement la suite. Aujourd'hui, on voit déjà qu'il y a des questions et que la hausse suivante du mois de mars n'est pas du tout actée, n'est plus actée, en tout cas aussi fortement par les marchés.
Voilà, plutôt acté aussi fortement. Il est certain que la Fed ne pouvait agir que pendant le premier semestre 2016, puisqu'elle n'intervient jamais au cours de la période vraiment assez active de la campagne présidentielle américaine, donc le deuxième semestre de cette année, puisque nous aurons les élections présidentielles aux États-Unis. Que se passe-t-il? On se rend bien compte que les marchés actions sont rentrés dans une tendance baissière, même si le momentum récent a été positif, et que les incertitudes demeurent. La faiblesse de la croissance dans les marchés émergents, qui peut être impactée par un dollar fort, puisque si la politique restrictive d'un point de vue américain est tout à fait correcte pour la Fed, ça devient très cher pour les pays émergents. Premier point. Le deuxième point, c'est que finalement, aujourd'hui, on a quand même un risque géopolitique. On a parlé du pétrole, mais pour l'instant, il n'y a pas encore de prix d'équilibre, il n'y a pas encore de. On l'a vu récemment avec les ruptures de relations diplomatiques entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, il n'y a pas encore de consensus sur une valeur de baril de pétrole. Et on parlait encore ce matin d'une possible intervention française en Libye. Donc il y a vraiment aujourd'hui, d'un point de vue géopolitique, des risques qui perdurent. Et si la macroéconomie n'est pas au rendez-vous, effectivement, la Fed sera très très prudente.
Vous parliez de la Banque centrale européenne en fin d'année dernière. Est-ce que le discours récent est plus convaincant pour les investisseurs ou pas?
On espère en tout cas. Mario Draghi a un discours très ferme en disant notre objectif d'inflation, c'est légèrement en dessous de 2%. Donc là aujourd'hui, on aura plutôt de l'inflation négative au printemps prochain. Donc on s'attend à des mesures très fortes au mois de mars, à commencer par un taux de facilité de dépôt, donc le taux auquel les banques commerciales déposent leur argent auprès de la Banque centrale européenne, à moins 50 points de base, contre moins 30 points de base aujourd'hui. À une extension du programme d'assouplissement quantitatif qui avait été déjà prolongé jusqu'en mars 2017. Nous le voyons prolongé jusqu'en septembre 2017 avec une augmentation des achats mensuels de 60 milliards d'euros à 80 milliards d'euros.
Donc un soutien à cette zone euro. Alors on a aussi parlé récemment du Japon avec la stratégie de la banque centrale japonaise, et on voit ces taux d'intérêt négatifs, mais on pourrait dire aujourd'hui, quand on regarde, c'est des trillions de dollars un peu dans le monde qui sont aujourd'hui négatifs. Est-ce qu'on sait quand une banque centrale commence à aller vers ce territoire négatif où ça peut s'arrêter, parce que ça fait peur à certains investisseurs, ça?
Justement, c'est qu'on n'en sait rien. C'est-à-dire qu'en fait, depuis la crise de 2008, depuis le moment où notamment la Fed a entamé ses politiques non conventionnelles, les premiers commentateurs ont dit « la Fed joue aux apprentis sorciers ». Et on se rend compte que, un, la Fed a des difficultés à sortir de cette politique d'assouplissement quantitatif non conventionnel. Deux, que la BCE y entre, mais y rentrait peut-être trop tard. On pourrait d'ailleurs se poser l'efficacité du QE de la BCE, commencé en mars dernier, un an après, où en est-on ? La hausse des actifs n'est pas au rendez-vous, si ce n'est qu'on a aujourd'hui un taux de rendement du 10 ans allemand aux alentours de 30 centimes, 0,30%. Donc, c'est quand même pas une réussite non plus de ce point de vue-là. Et deuxième point, c'est que finalement, les banquiers centraux se disent « on peut vivre avec des taux négatifs ». Donc peut-être également la Fed se dit « il suffit d'avoir non pas 4 hausses de taux, mais 2 hausses de taux, comme l'ont anticipé les marchés. On ne va pas faire paniquer les actifs risqués, notamment les marchés actions, et puis finalement on aura des taux négatifs ». Le risque dans une telle attitude, c'est un, ça veut dire que les SICAV monétaires vont passer négatifs. Donc les institutions vont dire, plutôt que de déposer de l'argent en banque, on va quand même avoir les SICAV monétaires. Pourquoi ? Parce que le risque, ou les particuliers, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les banques qui vont être taxées sur les dépôts auprès de la banque centrale vont vouloir reporter cette tarification. Et donc ensuite se dire, peut-être les particuliers vont garder l'argent chez eux, ils ne vont plus consommer. Donc là, il y a un vrai risque. Donc là, aujourd'hui, un risque de déflation encore plus fort. Donc cette politique de taux négatif peut faire peur. Au départ, c'est pour réinjecter de l'argent dans les actifs risqués. Donc jusqu'où, en fait, la vraie question aujourd'hui, c'est un, jusqu'où peut-on pousser la bulle obligataire? Parce que ça fait un moment qu'on a une bulle obligataire sur les emprunts d'État. Et deuxième question, quel est vraiment aujourd'hui le rôle des banquiers centraux? Ne sont-ils pas les prêteurs en dernier ressort?
C'est effectivement une question essentielle. Le mot de la fin pour l'investisseur sur ces marchés obligataires, qu'est-ce qu'il doit faire en ce début d'année?
Aller sur le crédit européen. L'élargissement des spreads a provoqué des opportunités. Donc, je vous ai parlé d'EDF, de Total. Il y a quand même des entreprises solides, il y a des entreprises d'importance stratégique nationale. On a vu l'aide de l'État via BPI France à travers des sociétés comme CGG Veritas, comme Vallourec. Récemment, il faut voir que le secteur parapétrolier en France, c'est 400 entreprises, 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est un secteur stratégique de par sa technologie, à un moment donné, revenir aux fondamentaux. Et dans ce cadre-là, la zone euro aujourd'hui est en reprise économique cyclique avec, on peut le dire, le soutien de la Banque Centrale Européenne.
Merci Laurent Géronimi.